Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Hodiot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines. Ce jour-là, certes, oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce samedi 16 janvier 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal, suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Exercice militaire Grand Prophète. Le CGRI teste ses nouvelles technologies de guidage et de contrôle des missiles. En Norvège, 23 décès ont été signalés suite à la vaccination contre la COVID-19 sur seulement 25 000 vaccinés. Et un soldat de la MINUSMA a été tué lors d'une attaque dans la région de Kidali, au Mali. C'était les titres, en voici le journal. La première phase des exercices militaires Grand Prophète 15 a eu lieu vendredi 15 janvier dans la région du désert central d'Iran avec la mise en œuvre d'une opération combinée de missiles et de drones des forces aérospatiales du Corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI. Lors de ces manœuvres d'envergure, des missiles balistiques sol-sol ont été tirés, suivis d'opérations menées par des bombardiers offensifs. Les exercices militaires du CGRI se sont déroulés en présence du commandant en chef, le général de division Hossein Salami, du commandant des forces aérospatiales, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, et de certains commandants et responsables de haut rang des forces armées de la République islamique d'Iran. Une nouvelle génération de missiles balistiques sol-sol et de drones a été lancée lors d'une attaque combinée contre la base ennemie virtuelle, détruisant toutes les cibles spécifiées. Dans la première étape des exercices du CGRI, les drones de combat du CGRI ont entièrement frappé le bouclier antimissile de l'ennemi fictif et les missiles balistiques de nouvelle génération de ce corps dans les classes Zolfarar, Zelzal et Despoul ont été tirés sur les cibles prédéterminées avant de détruire une base ennemie fictive. Ces missiles sont équipés d'ogives détachables avec la capacité de guider hors de l'atmosphère ainsi que la capacité d'intercepter et de passer à travers les boucliers antimissiles ennemis. Le commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique, le général Hossein Salami, qualifiant de démonstration de la ferme volonté du peuple iranien, la mise en œuvre d'opérations conjointes de missiles et de drones dans l'exercice Grand Prophète 15 a indiqué. Les tests réussis de nouvelles technologies dans les systèmes de guidage et de contrôle des missiles et des drones et dans le commandement et le contrôle étaient l'une des caractéristiques de ces manœuvres. En utilisant un grand nombre de drones de combat offensifs équipés de technologies avancées de guidage, de contrôle et de l'intelligence artificielle pour le ciblage, les tirs de missiles balistiques et la destruction de cibles avec une grande précision, dans cette première phase des manœuvres, de magnifiques scènes ont été peintes exposant l'autorité défensive et la puissance dissuasive de l'Iran islamique, a souligné le général Salami. Plus de 740 millions de barils de pétrole ont été ajoutés aux réserves pétrolières de l'Iran, et ce alors que les pétroliers iraniens s'approchent d'ores et déjà des ports de la Syrie et du Venezuela. le directeur des affaires techniques de la société iranienne de pétrole offshore, Falat Qareh, a annoncé une augmentation des réserves de pétrole iranien dans les champs pétrolifères du Golfe Persique. Les études effectuées sur quatre champs pétrolifères de Bahreghansar, Endijan, Nowruz et Abu Zar, tous situés dans les eaux du Golfe Persique, montrent que plus de 740 millions de barils de pétrole ont été ajoutés aux réserves pétrolières de l'Iran, a affirmé le responsable. Selon le facteur de récupération de ces champs, 217 millions de barils de pétrole peuvent être extraits, soit l'équivalent de 10 milliards de dollars, ajouté à la valeur des ressources extractibles des champs pétroliers offshore iraniens si l'on considère le prix de baril à 45 dollars. L'extraction de ce pétrole faisable avec les technologies dont dispose l'Iran nécessite de nouveaux forages. Selon la planification prévue, les travaux de production seront effectués à partir de ces réservoirs dans les prochains mois, a précisé le responsable. Avec l'extraction des nouvelles réserves, ajoute-t-il, la capacité de production pétrolière de l'Iran dans les champs situés dans le Golfe Persique atteindra plus de 420 000 barils par jour. En Syrie, les FTS, soutenus par les forces d'occupation américaines, ont pris d'assaut les maisons des civils dans la localité de Karama, dans la banlieue est de Raqqa, et enlevé un certain nombre de jeunes hommes pour les enrôler dans leur rang. Dans le même contexte, des sources ont fait savoir que des hommes armés FTS avaient enlevé un certain nombre de jeunes hommes dans la ville de Shadadi, dans la banlieue sud de Hasaké, pour les conduire au camp d'entraînement. Par ailleurs, deux hommes armés des FTS ont été tués alors que d'autres ont été blessés dans deux attaques séparées dans la banlieue de Deir ez-Zor. Cité par le correspondant de l'agence de presse officielle syrienne Sana, des sources locales ont fait savoir qu'un chef des FTS et une personne chargée de l'escorter avaient été tués par balle visant un véhicule qui les transportait à proximité du fleuve de l'Euphrate dans la ville de Chaïl, dans la banlieue est de Deir ez-Zor. Dans une autre attaque, cinq hommes armés de la milice avaient été blessés dans une attaque par balle de mitrailleuse contre leur point de contrôle dans la périphérie de la localité d'Abu Hammam, à l'est d'Deir ez-Zor. Mahmoud Abbas, chef de l'autorité autonome palestinienne basée à Ramallah, en Cisjordanie occupée, a présenté un décret présidentiel sur la tenue d'élections générales en trois étapes au président de la commission électorale, Hanna Nasser, le 15 janvier 2021. Des élections législatives et présidentielles se tiendront en mai et juillet prochains, a annoncé vendredi le président de l'autorité autonome palestinienne, Mahmoud Abbas. Le Hamas, mouvement de résistance islamique palestinien qui dirige la bande de Gaza, s'est félicité de cette annonce et a estimé que le peuple palestinien a le droit absolu de choisir ses propres dirigeants et représentants. Le mouvement a déclaré dans un communiqué de presse que le Hamas félicite des décrets présidentiels qui fixent les dates de la tenue des élections législatives et présidentielles en Palestine et du Parlement de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. Le Hamas affirme son extrême volonté de faire de ce droit un succès dans l'intérêt du peuple palestinien qui a le droit absolu de choisir ses dirigeants et ses représentants, indique le communiqué, ajoutant que le Hamas avait travaillé au cours des derniers mois pour surmonter tous les obstacles afin de parvenir à ce jour. La dernière présidentielle palestinienne a eu lieu en janvier 2005 et les dernières législatives en janvier 2006, avant que les divisions entre le Hamas et le Fatah ne figent la vie politique palestinienne. En septembre 2020, le Fatah et le Hamas étaient entendus sur l'organisation d'élections d'ici 6 mois dans le cadre d'un dialogue entre les factions palestiniennes visant à unir leurs forces face aux accords de normalisation conclus sous l'égide de l'administration américaine de Donald Trump entre Israël et des pays arabes ces derniers mois. En Norvège, 23 décès ont été signalés suite à la vaccination contre la COVID-19 sur seulement 25 000 vaccinés. La Norvège rapporte 23 décès post-vaccinaux. Après en avoir examiné 13, la Norvège a indiqué que les effets secondaires des vaccins à ARN peuvent avoir entraîné des décès. Le point commun était qu'il s'agissait de personnes âgées, plus 80 ans. En conséquence, l'Institut national de la santé publique et l'Agence norvégienne des médicaments ont modifié le guidage de vaccination contre Corona avec de nouveaux conseils pour ce groupe. À noter que l'agence rapporte aussi 4 cas de réactions allergiques graves sans préciser les symptômes ressentis. Un soldat de la MINUSMA a été tué lors d'une attaque dans la région de Kidali au Mali, annoncé samedi la mission du groupe dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. La mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies au Mali, MINUSMA, a déclaré qu'une mine posée par des terroristes avait explosé lorsqu'un véhicule transportant des soldats de l'ONU est passé au-dessus de l'appareil. La nationalité du soldat décédé n'a pas été encore révélée. Un autre soldat a été aussi blessé. La MINUSMA a été créée en 2013 par la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour stabiliser ce pays après une rébellion Touareg en 2012. La mission a subi 230 morts depuis 2013, la plupart de toutes les missions de l'organisation. C'est l'une des missions les plus importantes avec plus de 15 000 personnes. Voilà, si ça achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Bayraktar, le sultan trahi par USA Grande-Bretagne. La Turquie s'est vue privée des pièces détachées pour la fabrication de drones Bayraktar et supprimée à la fois du projet F-35, respectivement par ses alliés britanniques et américains. La décision du Royaume-Uni d'imposer des sanctions à la Turquie en annulant l'exportation de pièces détachées de drones vers le pays ainsi que l'expulsion de la Turquie du programme de production conjoint de F-35 par Washington sont considérés comme des coups inattendus américano-britanniques contre l'industrie de défense d'un pays allié et membre de l'OTAN. Conformément au rituel des pays européens au cours des dernières décennies, les Britanniques ont présenté l'excuse euphémique des droits de l'homme pour ne pas exporter de pièces détachées de drones vers la Turquie, accusant cette dernière d'avoir utilisé sans vergogne et dangereusement des drones pendant la guerre du Karabakh contre les civils. Les responsables de l'industrie de la défense turque ont déclaré que la décision britannique n'affecterait en rien le sort du drone Bayraktar TB2 et que les experts turcs pourraient facilement contourner l'embargo. Ils ont également annoncé avoir atteint 93% d'autosuffisance dans la production de ce drone armé. Mais comme il n'est pas possible d'examiner la question de défense-sécurité dans ses détails, l'autosuffisance de 93% a de quoi susciter des doutes. Cependant, si cette affirmation est supposée vraie, il n'est pas clair que les 7% restants dépendant de la production de ce drone appartiennent à quel composant sensible de cette arme stratégique. Les experts de la société Bayraktar TB2 et les responsables de la défense turque ont en outre qualifié les sanctions britanniques d'insignifiantes. Toutefois, le contact soudain du ministre turc de la Défense, le général Hulusi Akar, avec son homologue britannique Ben Wallace, pour discuter de la livraison des pièces nécessaires, prouve le contraire. À vrai dire, le problème actuel de l'industrie de la défense, en particulier de l'armée de l'air turque, n'est pas seulement la difficulté de l'approvisionnement de certaines pièces décalées sophistiquées du drone Bayraktar. À noter que, sur ordre du président américain, en 2020, la Turquie a été exclue du programme conjoint du chasseur F-35 en raison de la décision d'Ankara de faire l'acquisition du système de défense anti-aérienne russe S-400. Les États-Unis sont même allés plus loin et pire, ont renvoyé les pilotes turcs qui suivaient une formation sur les installations militaires en Arizona tout en annonçant que les 48 chasseurs F-35 ne seraient pas vendus à la Turquie comme prévu. La décision des Américains a été prise à un moment où des centaines d'ingénieurs et d'experts de défense turcs étaient impliqués dans la production et la fourniture de plus de 500 petites et grandes pièces du chasseur F-35. Bien que la production de plusieurs versions des deux générations de drones armés et non armés en Turquie ait changé de nombreuses équations de défense et de sécurité en faveur de la Turquie, la position prise par Londres a montré que les alliés occidentaux ne sont pas satisfaits des progrès de la Turquie dans ce domaine et peuvent inventer diverses excuses pour y faire obstacle.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce vendredi 15 janvier 2021. Pour la quatrième fois consécutive, Israël a lancé des frappes aériennes contre la Syrie du 12 au 13 janvier visant les villes de Deir ez-Zor, d'Abu Kamal et d'Al-Mayadin. Contrairement aux chiffres avancés par les médias mainstream, ces attaques n'ont fait qu'un mort et 5 blessés côté syrien. En effet, les forces de la résistance ont été mises en état d'alerte et la DCA syrienne a intercepté plusieurs de ces missiles tirés par le régime israélien. Israël a multiplié ses attaques contre la Syrie au cours des derniers mois. Il s'agit d'une réaction, en effet, aux victoires de l'armée syrienne face aux groupes terroristes, notamment Daesh, soutenus par le régime de Tel Aviv. En réaction à ces attaques, le ministère syrien des Affaires étrangères a souligné que les frappes israéliennes faisaient preuve, en effet, d'une coordination et d'un accord avec les groupes terroristes. Damas a également appelé l'ONU a empêché Israël de répéter de telles agressions en violation, bien entendu, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la Syrie. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ces nouveaux agissements de l'entité israélienne contre la Syrie, ses objectifs à l'approche de l'investiture du nouveau président américain, mais aussi, en effet, la résistance, les plans de la résistance, la riposte de la résistance face à ce nouvel aventurisme du régime israélien. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Que s'est-il passé juste dans la nuit de 12 au 13 janvier à l'est de la Syrie? La résistance a-t-elle perdu une bataille contre l'axe US-Israël alors qu'elle lui promet une mortelle riposte? Interrogé par Spatnik, le général de division Al-Nizar Al-Kader, commandant en chef de la 17e division de l'armée syrienne, apporte quelques intéressants éclaircissements qui contredisent le flot désinformationnel de ces dernières heures. Selon le général des avions F-16 d'Israël, envoyé par l'US Air Force dans le ciel d'Al-Tanf, avait pour mission pas tant de frapper Deir ez-Zor, Abu Kamal, Al-Mayadin que de briser le mur aérien créé par l'armée syrienne russe au nord du périmètre dit de 55 km que l'Amérique a établi dans le ciel de la zone. À défaut de pouvoir briser au sol l'encerclement total de ses troupes basées à Al-Tanf, l'opération renvoie en effet droit, ajoute le général, à une tentative désormais habituelle de l'administration US visant à recomposer Daesh via l'endiguement des opérations aériennes syriennes et russes ou leur compromission, lesquelles opérations conjuguées au raid au sol continue à étouffer dans l'œuf Daesh renaissant. Et le général d'ajouter, ayant échoué à percer le mur aérien au nord de la zone 55 km, l'un des 6 missiles israéliens tirés et non intercepté par la DCA syrienne à l'aéroport de Hamdan, s'est abattu sur la branche de la sécurité militaire à Deir ez-Zor, ce qui a entraîné la mort d'un soldat de l'armée et en a blessé 5 autres. Les frappes visaient également les quartiers généraux des forces alliées dans le village d'Ayash, anciennement des dépôts de munitions à l'ouest d'Deir ez-Zor, ainsi que le poste frontière d'Al-Boul Kamal dans le village d'Al-Hiri. Mais là, les dégâts ont été uniquement matériels. Pas de victimes iraniennes ni irakiennes ni afghans, a dit le général en allusion claire à la force Rots, au Hacht et au Fatemiyoun. À peine 3 jours avant que cette 4e frappe stérile de l'entité depuis le début de 2021 n'ait lieu, quelques 800 chercheurs et universitaires iraniens ont signé une lettre à l'adresse du commandant-en-chef du département aérospatial de la force Rots, où ils ont appelé à ce que la moindre tentative de violation de l'espace aérien ou maritime iranien, voire son rapprochement même par les avions ennemis B-52 ou l'USS, soit immédiatement ripostée, comme en juin 2019, quand la DCA iranienne a abattu un RQ-4 US dans le ciel du sud du pays, noyant à jamais sa réputation.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Moscou avec Fabrice Barre, expert pour l'ONG EOD, et depuis Damas avec Arnaud Develay, maître Arnaud Develay, juriste international. Maître Develay, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à M. Barre.
Maître Develay, ces derniers jours, l'entité israélienne a multiplié ses frappes contre la Syrie. Pourquoi le régime de Tel Aviv, en effet, pour la 4e fois consécutive en 2 jours, pourquoi le régime de Tel Aviv continue de s'acharner sur la Syrie, Maître Develay?
Mais écoutez, je pense qu'il faut voir les choses dans le contexte des événements à Washington, avec une administration Trump qui avait, si je puis dire, collaborer extrêmement intensément avec l'entité sioniste depuis 4 ans, s'arrangeant le droit de délivrer sur un plateau, si je puis dire, une reconnaissance de la souveraineté, entre guillemets, israélienne sur le Jordan syrien, en défiant toutes les résolutions onusiennes sur le sujet, en déménageant l'ambassade américaine de Tel Aviv à Hod, encore une fois en défiance de tous ces textes, et alors même que Donald Trump est empêtré dans des affaires internes, et cela alors qu'on sait que Mike Pompeo a fait beaucoup de voyages récemment, notamment une rencontre avec le responsable des renseignements israéliens, on peut considérer que ce sont un petit peu des tentatives désespérées de créer un état de fait qui transformerait, si je puis dire, l'équation de telle sorte que les Américains, que ce soit sous Trump ou sous l'administration Biden, qui pourtant a laissé entendre qu'elle rejoindrait la table des négociations concernant ses relations bilatérales avec l'Iran, transformer donc de manière qualitative l'équation de telle sorte que les Américains soient amenés à intervenir et à au moins rester, si ce n'est pas rester dans la région, à amplifier leur présence, voire même intervenir directement aux côtés des Israéliens dans le cadre d'un conflit régional. Donc c'est une stratégie de la surenchère. Les Israéliens sont encerclés balistiquement. Des rapports, des expertises sont été publiés récemment, laissant entendre que l'armée sioniste est dans un état de décomposition morale et logistique avancée, et que non seulement la situation en Syrie s'est retournée complètement contre l'entité sioniste, mais maintenant, avec l'émergence de la résistance yéménite, c'est carrément sa possibilité de projection militaire dans la mer Rouge et au-delà qui s'en trouve complètement contenue. Donc je pense qu'il faut considérer ces attaques, ces raids, si je puis dire, qui sont des raids périphériques, hein, l'espace aérien syrien étant verrouillé, ce sont des raids qui traduisent une certaine fébrilité, une certaine inquiétude quant à la viabilité du projet en lui-même.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous. On va tout de suite se rendre à Moscou pour rejoindre Fabrice Boer, expert pour l'ONG ODE. Monsieur Boer, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour. Merci à vous également.
Monsieur Boer, la diplomatie syrienne a réagi, bien entendu, soulignant que cette tentative désespérée, comme disait Maître Develay, cette stratégie de surenchère, en effet, faisait preuve d'une coordination et d'un accord entre le régime de Tel Aviv et les terroristes. Dans quelle mesure, la défaite définitive, en effet, des terroristes en Syrie mettrait en péril les intérêts et les projets stratégiques du tandem américain-israélien?
C'est une question qui est intéressante à double titre parce que, évidemment, et je vais répondre à cela en ce qui concerne la question du Proche-Orient, mais en même temps, ça, je prendrai en exemple ce qui se passe aussi en Afrique parce que c'est exactement là ce qui arrive, à savoir que la politique américaine a été, jusqu'à très récemment, jusqu'à la fin du XXe siècle, c'était un peu d'ailleurs le reste de la guerre froide où c'était des affrontements où on envahissait un pays militairement. C'est ce qu'ils ont fait avec l'Irak, c'est ce qu'ils avaient voulu faire avec la Somalie. Mais ça, aujourd'hui et depuis un certain temps, les Américains ont bien compris qu'ils n'avaient plus les moyens de pouvoir être partout, surtout qu'ils étaient, on va dire, face à des adversaires. Et ils ont... élaborer une stratégie qui est celle, évidemment, soit de sous-traiter à certains pays, soit de sous-traiter à des mercenaires. Et l'essentiel n'étant pas d'occuper la totalité du pays, mais des zones stratégiques, et s'ils ne peuvent l'occuper, d'installer le chaos pour que leurs ennemis ne puissent pas en profiter. Et aujourd'hui, évidemment, le terrorisme est le prétexte pour justifier la présence de troupes. Et des fois, c'est le prétexte pour... bienvenue, et souvent c'est le prétexte qui a été créé de toutes pièces. Et là je fais juste un aparté mais très très rapide justement sur l'Afrique où depuis la destruction de la Jamaïa par Paris, Londres et Washington, le chaos s'est installé dans le Sahel et la présence militaire française n'a pas pu, jusqu'à présent et américaine, et n'a jamais su réduire ces groupes terroristes. Et même d'ailleurs, là où les bases américaines en Afrique arrive, le terrorisme arrive en même temps. C'est assez bizarre. Et pour revenir sur le Proche-Orient, et en particulier sur la Syrie, on notera, et c'est évidemment un secret de polichinelle, que ce groupe de Daesh dans le désert syrien se renforce depuis ces dernières semaines, mais à partir de l'excroissance cancéreuse de la base américaine d'Al-Tarif. D'ailleurs, d'où viennent, entre parenthèses, la zone aérienne, les bombardements américains ou israéliens. Et donc aujourd'hui, oui, ils ont besoin de ce prétexte terroriste pour leur présence, et la disparition de cette présence terroriste ferait qu'ils n'auraient plus d'argumentation. Alors, lorsque Daesh se sera totalement réduit, ils ont déjà prévu le coup, et on voit bien avec la politique grossière des Américains, Pompeo, qui a indiqué que le chef d'Al-Qaïda avait été domicilié en Iran. C'est à cet ordre de rire. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, il y a encore une grosse proportion d'Américains qui pensent que... qui ne font pas de différence sunnite-chiite, qui ne font pas de différence entre les Iraniens et le monde arabe. Bon, les nuances, ce n'est pas tout à fait leur truc. Hein. Le monde est blanc ou noir chez eux. Il n'est pas fait de nuances et de complexité et de richesse. Donc, c'est assez plus simple. Donc, pour conclure sur votre question, la fin de la destruction de ces groupes terroristes annihile toutes leurs politiques de déstabilisation des pays et de la justification de leur présence militaire. S'il n'y a plus de terroristes en Syrie, il n'y a plus de raison d'avoir des soldats américains dans le Nord. S'il n'y a plus de terroristes en Syrie, il n'y a plus besoin d'avoir Al-Tarif. S'il n'y a plus de terroristes en Syrie, pourquoi à ce moment-là bombarder le territoire syrien? Et s'il n'y a plus de terroristes en Syrie, comment va faire le régime d'Erdogan pour continuer à justifier sa présence et sa politique agressive vis-à-vis de la République arabe syrienne? Donc on est au cœur du problème, c'est-à-dire de la manipulation de la on va dire, du prétexte antiterroriste pour justifier une politique classique impérialiste. Et dans le cas précis, évidemment, plus de terroristes, ça veut dire que certains pays, tout du moins, sortent de la guerre, d'autres se renforcent, et ça ne fait que valider le fait qu'Israël est de plus en plus effectivement encerclé. Mais peut-être qu'on parlera dans une deuxième question du fait que la présence russe également en Afrique, et en particulier sur la côte est africaine, joue aussi un rôle dans cette reconfiguration géopolitique dans la région.
Merci pour ces éclairages, Monsieur Bauer. Restez avec nous, s'il vous plaît. Maître Develay, au-delà de cette manipulation du prétexte antiterroriste, quel a été l'impact des frappes israéliennes sur le pouvoir de dissuasion de l'armée syrienne au moment où, justement, vous avez évoqué tout à l'heure, la résistance en général dans la région connaît une montée en puissance très, très importante?
Écoutez, encore une fois, je pense que ce sont des tentatives désespérées. Il faut comprendre que depuis le mois de juin dernier, et depuis la visite, je crois que c'était le ministre de la Défense iranien à Damas, il y a eu une conclusion d'accord militaire sur la fourniture d'équipements balistiques, et le résultat a été presque instantané, je veux dire, avec l'installation des corps d'AT-3 à la frontière syro-libanaise, au Jolan, avec le déploiement des Bavard 373, vraiment la configuration a complètement été altérée, de telle sorte que on est passé maintenant en Syrie d'une position défensive en termes de DCA, en termes de contrer les frappes aériennes israéliennes, à la possibilité de rendre ces frappes quasiment ineffectives, mais aussi essentiellement, et le moment venu, de transformer ce dispositif en système offensif. Donc, la réponse, elle est très simple. C'est qu'en fait, la justification, effectivement, pour la préservation de la base d'Al-Tanaf permet d'entretenir l'idée, peut-être, qu'avec la nouvelle administration, en faisant le pont entre l'administration Trump et celle de Biden, les Israéliens continueront, si je puis dire, à chevaucher le prétexte factice de contenir le terrorisme dans la région. Mais il faut garder à l'esprit quelque chose d'important, c'est que la narrative maintenant est celui de dire qu'on est passé d'un terrorisme takfiriste à un terrorisme soi-disant incarné par les milices soutenues par l'Iran. Je mets des cotations entre les deux extrémités du terme. Mais on voit déjà que, et ça participe d'ailleurs à ce que Trump disait, c'est que Daesh ayant été défait, il s'agissait maintenant de rester dans la région pour, je cite, non seulement prendre le pétrole iranien, mais aussi garder un œil sur l'Iran. Donc on commence déjà à voir l'esquisse de la prochaine campagne de vente, si je puis dire, de la présence américano-sioniste dans la région vis-à-vis des opinions publiques occidentales. Donc, il faut rester vigilant. De toute façon, nous sommes au cœur d'un processus qui est sur le long terme. L'expulsion des Américains de la région ne se fera pas aussi rapidement qu'on pourrait le souhaiter. Ce sera une guerre d'usure. Et à la fin du processus, l'expansion du sang et du trésor, comme les Américains aiment à le dire, fera en sorte que les contradictions internes de leur vocation à amener une forme de démocratie et de stabilité dans la région finira par le biais du fait que cette politique impériale a rendre la situation intenable en interne de telle sorte qu'ils seront obligés de rapatrier leurs forces pour contenir la colère populaire aux États-Unis.
Merci encore, Maître Develay. Une toute dernière question, très probablement à Monsieur Bauer. Monsieur Bauer, on a l'impression qu'aujourd'hui, justement, les règles du jeu, les règles du conflit ont complètement changé en faveur de l'axe de la résistance. Alors, est-ce qu'on pourrait, concernant toujours les récents agissements de l'entité israélienne en Syrie, déduire que là, il s'agit d'une d'une politique de fuite en avant au dernier jour du mandat de Donald Trump. Et puis, après cette période, c'est-à-dire à partir du 20 janvier, avec bien entendu l'implication, plutôt l'engagement en effet, de la Russie dans ces évolutions, à quoi faudrait-il s'attendre, M. Bohr?
Il est sûr que la défaite de Trump a été une mauvaise nouvelle pour Netanyahou. C'est une évidence, vu leur lien. Et ils ont profité effectivement de la dernière fenêtre pour autant leur public intérieur que pour... C'est presque le dernier cadeau de Trump, on va dire, à Israël, qu'ils ont essayé de le faire. Mais bon, on ne va pas revenir sur la partie... technique de la chose, puisqu'on sait très bien, et ça a été dit auparavant, qu'ils ont fort à faire aujourd'hui avec les nouveaux systèmes de DCA, et il y a cet élément-là, mais pour répondre et pour élargir et non pas regarder simplement cette action à la loupe, il faut donc voir plus large, voir le cadre. Et là, effectivement, on rentre toujours dans la géopolitique et la Russie qui, depuis un certain temps, accélère sa présence dans le monde, sa présence en Afrique également, mais qui a une incidence sur ce qui se passe aujourd'hui donc, dans la région du Proche-Orient. C'est qu'elle a aujourd'hui, bien qu'il y ait eu un changement de régime à Khartoum et que... pour autant, ça ne se passe pas bien comme ils le pensaient, puisque la partie civile, c'est carrément des employés, c'est des gens qui ont la double nationalité, qui sont américains, c'est des gens des Soros Jungen, on va les appeler comme ça. C'est direct. Sauf que l'armée est toujours, on va dire, avec une bonne orientation, et que la Russie a des avions à Khartoum, ce qui d'ailleurs a permis pour la Centrafrique de bombarder... les tentatives de coup d'État. Mais c'est pas aussi... le plus important, c'est qu'il y a une base qui va être faite dans les prochains mois ou années. Si ce n'est pas au Soudan, ce sera en Érythrée, ce qui veut dire que la Russie, la flotte russe, aura une base également dans la région, et ça va influer, effectivement, parce qu'elle aura une base à Tartous, donc au nord, Israël, et une base au sud, dans une région importante, d'ailleurs, pour le commerce mondial. Et donc, nous avons effectivement la puissance russe qui vient et qui contrebalance cette présence occidentale et des forces américaines. Tout cela fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on pourrait se dire Biden, c'est lui qui a signé aussi l'accord que Trump a signé sur le nucléaire iranien. Mais ce n'est pas Biden qui a été mis en place. Je ne me rappelle plus de son nom d'ailleurs, voilà. C'est Harris, la vice-présidente, et celle-ci, elle est appelée Madame Soros, parce qu'elle est très très proche de Soros, plus que ça, même, dire de la famille directement. Et donc je pense que la politique qu'on pouvait attendre des États-Unis, qui serait revenue sur les accords et dans la signature, par exemple, sur l'accord nucléaire iranien, ne se fera pas, parce que cette charte Mandam fait partie d'une génération qui non seulement sont très éloignés de l'Europe, alors que Biden, il avait des liens familiaux, etc., c'était quand même plus complexe. Mais avec la nouvelle génération au pouvoir aujourd'hui aux États-Unis, c'est, l'Europe, ils n'en ont strictement rien à faire, et ils sont dans une politique bien plus radicale en réalité. Et nous avons des néoconservateurs qui, peu importe qu'ils soient républicains ou démocrates, c'est bipartisan, aujourd'hui vont revenir en force, et même pour la Russie, on le voit avec Nuland qui va revenir pour l'Eurasie, donc ce qui va se passer en Ukraine, ça va se réchauffer, donc je pense que là, sur l'Iran également, on va avoir des surprises. Donc finalement, on est dans une situation où ce qui a été détruit par Trump ne va pas être réparé par la nouvelle administration.
Merci.
Mais je terminerai là-dessus, mais qui va être complexifié de par la nouvelle présence dans la région, qui est la présence russe, la présence militaire au nord, donc en Syrie, et dans la corne de l'Afrique. Et ça peut changer énormément de choses, comme la résistance du Yémen, et en particulier également comme l'axe de la résistance et la route, le lien entre Téhéran jusqu'à la Méditerranée. Et ça, c'est quelque chose, un élément nouveau qui fait qu'on ne peut être que, on va dire, optimiste sur l'issue du conflit, même comme ça a été dit, ce sera encore long, il y aura encore du sang et de la sueur, malheureusement, parce que l'impérialisme américain sioniste, évidemment, ne lâchera pas prise facilement.
Fabrice Poir, expert pour l'ONG EOD depuis Moscou, Maître Arnaud Develay, juriste international depuis Damas, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fermement rejeté l'allégation sans fondement du secrétaire d'État américain Mike Pompeo selon laquelle Téhéran a des liens avec le groupe terroriste Al-Qaïda. Saïd Khatibzadeh, porte-parole de la diplomatie iranienne, a rejeté de cette allégation comme une répétition d'anciennes accusations. Répéter les accusations et montrer des documents fabriqués sous le nom de révélation d'informations confidentielles par Pompeo, le secrétaire d'État américain, dans la semaine qui reste jusqu'à la fin du règne rebelle du régime Trump, montre leur désespoir et l'échec de la pression maximale contre l'Iran, aura-t-il souligné. Le recours à de tels stratagèmes et à des affirmations sans fondement ne peut en aucun cas aider le régime terroriste américain à corriger sa voie qui est pleine d'erreurs et à restaurer l'image injustifiable des responsables de ce régime, a noté encore le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Auparavant, Pompeo avait une fois de plus, à l'époque où il était à la tête de la CIA et en échange de pétrodollars, cherché à établir un lien fabriqué entre l'Iran et Al-Qaïda afin d'utiliser le chantage et la fausse propagande pour de transférer les responsabilités et la pression des alliés américains qui étaient de les accuser dans le cas d'Al-Qaïda et le soutien à la catastrophe du 11 septembre, a ajouté le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Cependant, jusqu'à la fin du mandat de l'administration Trump, il n'a pas réussi à faire croire aux États-Unis et à l'opinion publique mondiale l'histoire qu'il avait inventée, a-t-il déclaré encore. Il a souligné que les responsables iraniens ont donné la réponse appropriée à ces jeux de blâme et à ces scénarios de style hollywoodien de tout au long de ces années. La République islamique d'Iran, qui a été victime du terrorisme d'État américain et des groupes qu'elle a soutenus, a un bilan brillant et défendable dans le domaine de la lutte contre le terrorisme d'Al-Qaïda et de Daesh, a conclu le porte-parole de la diplomatie iranienne. La marine iranienne a dévoilé son géant navire océanic. Le porte-hélicoptère Macron, le plus grand navire militaire du pays, a rejoint la flotte navale stratégique de la marine iranienne en présence du chef d'état-major des forces armées et du commandant en chef de l'armée de la République islamique d'Iran. Le 13 janvier 2021, au cours de l'exercice militaire de la marine iranienne, en présence du général de division Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées, du général de division Abderrahim Moussavi, commandant en chef de l'armée, et de l'amiral Hossein Khanzadi, commandant auprès des forces navales. Le géant porte-hélicoptère Macron a rejoint la flotte navale stratégique de l'armée de la République islamique d'Iran. La mission du Macron consistera à établir la sécurité maritime dans la mer d'Oman, l'océan Indien, jusqu'au 10e parallèle nord, le golfe d'Aden, le détroit de Bab el-Mandeb et la mer Rouge. Le porte-hélicoptère Macron est une île mobile de 121 000 tonnes qui fonctionne comme une base navale océanique et permet à la marine iranienne de soutenir ses flottes de combat dans les eaux internationales et d'éloigner. Ce navire stratégique est équipé d'une plateforme d'hélicoptères de 950 tonnes, d'une superficie de 3200 m². Le navire Macron est capable de transporter 82 000 tonnes de charge de soutien pour les unités de combat et est capable de naviguer sans connexion à la côte pendant 3 ans. Avec la capacité de transporter simultanément 5 hélicoptères, le Macron peut agir comme une base aérienne mobile en vue de soutenir les opérations de forces spéciales ainsi que les tirs de missiles en utilisant des hélicoptères de déminage anti-sous-marin et de combat de surface. La Syrie a affirmé que l'agression israélienne injuste contre des zones dans le gouvernorat de Deir ez-Zor a eu lieu simultanément avec les pratiques de la milice terroriste des FDS soutenue par l'administration américaine contre le peuple syrien à Asaka, Deir ez-Zor et Raqqa. Dans un message adressé au secrétaire général de l'ONU et au président du Conseil de sécurité, le ministère syrien des Affaires étrangères a indiqué que les autorités d'occupation israélienne avaient attaqué le 13 janvier 2021 les territoires de la République arabe syrienne en menant une agression aérienne contre la ville de Deir ez-Zor et la zone de Boukamal. La République arabe syrienne estime que la simultanéité des attaques israéliennes avec des attentats terroristes démontre une fois de plus l'accord et la coordination entre toutes les parties hostiles à la Syrie, a-t-il dit. Le ministère a fait noter que le gouvernement de la République arabe syrienne affirme sa détermination à reprendre chaque poussée des territoires de la République arabe syrienne, à les libérer du terrorisme et à y reconstruire ce que les terroristes avaient détruit. Et le ministère de conclure, la République arabe syrienne réclame au Conseil de sécurité d'assumer ses responsabilités dans le cadre de la charte de l'ONU et de prendre des mesures décisives et immédiates pour interdire la répétition de ces attaques terroristes israéliennes. Classé groupe terroriste par les États-Unis, le mouvement de la résistance yéménite Ansar Allah s'en est pris à l'administration finissante de Donald Trump, dont la décision fait craindre aux organisations internationales une aggravation de la crise humanitaire dans le pays exposé à une guerre meurtrière dirigée par l'Arabie saoudite depuis mars 2015. Le porte-parole d'Ansar Allah et chef de l'équipe négociatrice de ce mouvement de résistance yéménite a affirmé que si les États-Unis ne reviennent pas sur cette décision, le mouvement Ansar Allah prendra les mêmes mesures de rétorsion. Dans une interview accordée à l'édition arabe de l'agence de presse russe Sputnik, Mohammad Abdelsalam a indiqué que cette prise de position des États-Unis n'a donc fait rien de nouveau car ils ont commis les crimes les plus abominables au Yémen et adopté les sanctions économiques et inhumaines les plus dures contre le peuple yéménite. Ils se sont engagés dans une intervention militaire contre notre pays et ont offert un appui tous azimuts aux agresseurs. L'ONU estime que la décision américaine est susceptible d'avoir de graves répercussions humanitaires et politiques, selon Stéphane Dujarric, son porte-parole. L'Iran a condamné de son côté la décision américaine, jugeant que la liste noire était un processus qui a perdu sa crédibilité. Le Hezbollah libanais l'a également condamné fermement, la qualifiant de criminel. La décision américaine est une mesure criminelle visant à saper le moral du peuple yéménite ainsi que de leurs dirigeants et à soutenir le blocus et l'agression contre le Yémen. Et d'ajouter, la mesure américaine vise à punir quiconque rejette l'hégémonie américaine sur la volonté des peuples libres de notre région, rejette l'occupation sioniste de la Palestine ou l'engagement dans le processus malheureux de normalisation. Le Hezbollah a souligné que le mouvement Ansar Allah, qui a porté la bannière de la défense du peuple yéménite opprimé pendant des années et a résisté face à l'agression, s'attachera de plus après cette décision à son droit légitime de défendre le peuple yéménite, sa terre, ses ressources et ses options nationales. Ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. We'll be right back.